Suivez votre émission Appel sur l'actualité avec Orange Monnaie, la référence du paiement de facture via le mobile. Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Appelez-nous, exprimez-vous dans 30 minutes. Nous parlerons du Mali à un mois de l'élection présidentielle, puisque samedi, la Cour constitutionnelle a proclamé la liste provisoire des candidats. Sur les 30 dossiers déposés, 17 ont pour l'instant été validés. L'occasion donc ce matin de lancer le débat sur les chances d'Ibrahim Boubacar Keïta d'être réélu face à tant de concurrents. En tout cas, la sécurité reste bien le premier défi de ce scrutin, comme le démontrent les attaques de ces derniers jours à Gao et Sévaré. Alors craignez-vous pour la sécurisation de la campagne électorale? Dites-nous si les conditions de sécurité seront réunies le jour J, le 29 juillet, le jour où vous irez voter au Mali. 33 9 693 693 70. Vous continuez évidemment à nous rejoindre sur la page Facebook de l'émission, nous envoyant vos réactions, vos commentaires, vos témoignages également. Vous êtes quelques-uns à nous écrire de Gao pour témoigner de l'attaque hier dont les militaires français de l'opération Barkhane ont été victimes. Donc n'hésitez pas à nous envoyer vos coordonnées sur Facebook, mais en message privé évidemment, pour que votre numéro de téléphone n'apparaisse pas publiquement. Mais d'abord, comme tous les matins à cette heure-ci, ce sont vos questions pour mieux comprendre l'actualité. La première question de la semaine nous vient de Bamako justement. Bonjour Lassana.
Bonjour Anne, bonjour à tous les éditeurs, bonjour à votre équipe de rédaction.
Merci de nous appeler. Vous avez suivi la semaine dernière sur RFI l'ouverture du procès des bébés volés en Espagne.
Oui Anne, le premier procès des bébés volés s'est ouvert la semaine passée en Espagne. Pourquoi la juge espagnole a attendu aussi longtemps pour juger l'un des responsables de cette affaire, alors que l'affaire des bébés volés s'est éclatée dans les années 80 et que de nombreuses plaintes ont été déposées?
Ouais, le premier procès de ce scandale s'est ouvert à Madrid, dans le box des accusés. Un homme de 85 ans, un ancien médecin poursuivi pour avoir volé des nouveau-nés dans la clinique qu'il dirigeait pour les vendre ensuite à des couples stériles. Bonjour Rafael Moran.
Bonjour Juan et bonjour Alassana.
Merci d'être avec nous. Vous êtes journaliste à la rédaction en espagnol de RFI. Impossible de connaître avec exactitude le nombre de bébés volés en Espagne. Les associations spécialisées estiment qu'ils sont des dizaines de milliers. Avant de répondre à Lassana et pour planter le décor, il faut quand même rappeler aux auditeurs que ce scandale a commencé en fait dans les années 40.
Tout à fait, au début du franquisme, et il s'agissait en fait de punir les mères des familles républicaines. Il y a un aspect politique, hein, c'était presque une arme de guerre en fait. Selon les théories des franquistes, il s'agissait de purifier l'Espagne en quelque sorte de ses gènes marxistes, hein, selon les théories fascistes en cours à l'époque, en confiant les enfants des familles de gauche, les enfants des familles républicaines, à des couples qui étaient proches du pouvoir. Et puis cette pratique s'est poursuivie plusieurs années après la mort de Franco, c'est-à-dire dans les années 80. C'est devenu en fait un business, hein, une bonne affaire, quelque chose d'assez juteux pour les congrégations religieuses et l'Église catholique, notamment en Espagne, qui détenaient, qui dirigeaient beaucoup de matériel. Et donc qui vendait des enfants à des familles riches qui voulaient adopter les couples stériles dont vous parliez. Alors il a fallu attendre les années 2000 hein, pour que le juge Garzón, qui était très engagé dans la lutte contre les droits de l'homme, se saisisse de cette question et engage des actions judiciaires.
Alors Lassana le disait à l'instant, de nombreuses plaintes ont été déposées. On a vu sur l'ensemble du territoire espagnol de nombreuses associations, voire le jour. Pourquoi ce premier procès n'arrive-t-il que maintenant?
Alors, il y a trois causes hein, qui expliquent la lenteur de la justice. D'abord, la justice a pris son temps par faute de preuves, tout simplement, parce que ce système de vol de bébés était organisé avec la complicité des médecins, des gynécologues, des obstétriciens. Donc, il y a une plaignante qu'on a interviewée, là, qui nous racontait qu'en 1980, elle a accouché d'un petit garçon prématuré, il a été placé en couveuse, et au bout de quelques jours, les médecins lui disent, votre enfant est est mort, sans lui montrer le corps de son enfant, sans acte de décès, sans preuve. Dans ces conditions-là, c'est très difficile, quelques années plus tard, et encore pire, 20 ans plus tard, de déposer une plainte. Et en parallèle, les enfants qui ont été déclarés morts et qui ont été placés en adoption ont été déclarés comme enfants biologiques de leurs parents adoptifs. Alors, quand vous êtes un enfant et que vous avez votre acte de naissance qui dit que vos parents sont vos parents biologiques, c'est quand même pas évident de se douter que vous êtes un enfant adoptif.
Et puis d'aller le prouver le contraire ensuite, ouais.
Évidemment. Et c'est le cas d'Inès Madrigal, donc qui a porté plainte dans cette affaire, qui est d'ailleurs devenue
Inès Madrigal la porte-voix des bébés volés en Espagne.
Hein. Tout à fait, hein, puisque c'est vraiment celle qui a réussi la première à faire accuser une personne en particulier, et c'est comme ça qu'elle a réussi à faire accuser ce docteur Bella.
Ouais, de 85 ans aujourd'hui, donc manque de preuves. Et puis la deuxième raison aussi, c'est la prescription.
Oui, beaucoup d'actions en justice tombent sous le coup de la prescription. Il est trop tard pour ouvrir une enquête. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Espagne, les règles de prescription, les délais varient d'une province à l'autre. Hein. C'est un pays où les autonomies régionales ont beaucoup de pouvoir. La loi n'est pas tout à fait la même en la matière. À Madrid, la justice, la règle considère que la prescription et les délais sont plus longs. Donc, c'est pour ça qu'il y a eu une affaire qui a été ouverte. Et troisième raison, et bah, tout simplement, les responsables de ce trafic d'enfants commencent à disparaître, à décéder. Hein, c'est le temps fait son affaire. Et par exemple, en 2012, un procès a été engagé qui mettait en cause une religieuse pour un cas similaire. Et il se trouve que la religieuse est décédée pendant son procès. C'était en 2013. Et elle a emporté avec elle, évidemment, ce qu'elle savait sur cette affaire de bébé volé.
Donc, ça veut dire, Raphaël Morane, que l'Église catholique espagnole possède encore aujourd'hui beaucoup d'informations sur tous ces destins brisés, sur toutes ces dizaines de milliers de familles brisées.
Oui, Juan, parce que selon les informations qu'on a, ces maternités qui étaient possédées par l'Église catholique consignaient scrupuleusement toutes les informations sur les couples qui venaient adopter. Des avocats des familles de victimes de ces bébés volés ont fait appel au pape jusqu'à maintenant, un appel qui est resté sans réponse.
Affaire à suivre. Lassana, a-t-on répondu à vos questions ?
Bien, Juan. Merci.
Merci à vous de votre fidélité et merci surtout à Raphaël Moran de la rédaction en espagnol de RFI. 10h18 à Paris, vous nous appelez, toutes vos questions nous intéressent, aucun sujet n'est tabou, donc n'hésitez pas, 33 9 693 693 70. Bonjour Joe.
Bonjour Juan.
Vous êtes au Bénin, à Cotonou, nous vous écoutons.
Oui, le Bénin s'est doté d'une loi incriminant l'exportation, l'importation et l'utilisation de sachets plastiques non biodégradables. Quelles sont les mesures de répression envisagées pour veiller à l'application de la loi ?
Alors, cette loi a été votée il y a maintenant 6 mois. Elle est entrée en vigueur mercredi dernier et désormais, théoriquement, selon la loi, seuls les sacs plastiques biodégradables et réutilisables sont autorisés. Bonjour Jean-Luc Aplogan.
Bonjour Juan, bonjour Joe.
Correspondant de RFI au Bénin, concrètement, que prévoit la loi pour contraindre les consommateurs béninois à n'utiliser que des sacs plastiques biodégradables ?
D'abord, toutes les importations des sachets, depuis le vote de cette loi, ces importations seront donc interdites. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les frontières sont surveillées et que la douane veille au grain. Maintenant, au niveau de la répression, quelle forme elle prendra ? Ce sera des centres inopinés sur le terrain, dans les marchés, les centres commerciaux et quelques espaces publics. La police environnementale, la police municipale, c'est-à-dire la police de la mairie, et la police républicaine, qui est l'ex-police nationale, vont conduire cette descente inopinée. À l'intérieur, l'application de la mesure est confiée au préfet, et selon nos informations, il n'y a pas encore eu de saisie. La répression n'est pas pour tout de suite. Le gouvernement veut prolonger la sensibilisation encore 3 mois, donc rien avant fin septembre, le temps d'approvisionner suffisamment le marché en sachets biodégradables.
Alors à partir de fin septembre, à quoi devront s'attendre les consommateurs récalcitrants, ceux qui continueront à utiliser ces sacs plastiques ?
Ils risquent gros, hein. Toute personne qui produit, importe ou exporte des sachets noirs, risque une amende de 5 à 50 millions de francs CFA et 3 à 6 mois de prison. Et si on vous surprend en train de déverser ou de jeter dans la rue, dans la mer, dans les fleuves ou dans les infrastructures d'assainissement, c'est 25 000 à 1 million de francs CFA d'amende et toujours 3 à 6 ans, à 6 mois d'emprisonnement.
D'accord. Joe, vous avez une autre question, il me semble.
Oui, je me demandais quelles sont les mesures prévues par le gouvernement afin de permettre à la petite vendeuse dans les villages reculés de s'approvisionner en sacs biodégradables à faible coût.
Ah, ça c'est une excellente question, Jean-Luc Plogan. On imagine que c'est facile effectivement pour les commerçants de Cotonou, de Porto Novo, d'avoir accès à ces sacs biodégradables, ces sacs réutilisables. Mais pour la petite vendeuse, je ne sais pas, du nord du Bénin, que va-t-il se passer pour elle ?
D'abord, le plan il est national. Hein. Ce qui est prévu n'est pas seulement pour les villes que vous avez citées, Cotonou ou Porto Novo. Et d'ailleurs, le ministère du cadre de vie a des directions départementales. Première chose à savoir, c'est que le gouvernement ne veut pas créer d'usine de fabrication. Et le gouvernement veut laisser l'initiative au privé. Il y a une usine qui existe, par exemple, et qui est opérationnelle à Tori, c'est à la périphérie de Cotonou, pas loin de Ouida. Et en ce moment, la demande d'agrément pour commercialiser ce sachet est très forte et elle vient d'opérateurs à la fois de Cotonou, mais de l'intérieur du pays. Les besoins sont si énormes qu'il n'y a pas besoin de faciliter aux mesures. Outre mesure, nous dit-on au ministère du cadre de vie, en clair, Juan, je crois qu'il n'y aura pas de subvention de prévu, mais il y a eu une formation qui a été faite, par exemple, pour les groupements de femmes à l'intérieur du pays, sur la fabrication d'emballages à partir de jacinthe d'eau, par exemple. Et puis, le ministère du cadre de vie a un conseil, il dit de ne pas regarder combien coûtent ces sachets biodégradables. Le prix varie entre 50 francs et 100 francs CFA, mais surtout de protéger sa santé. Et que la santé n'a pas de prix.
Oui, protéger la santé, protéger l'environnement, puisqu'un sac plastique peut mettre jusqu'à 400 ans pour se décomposer. Et j'en profite d'ailleurs pour vous rappeler à vous tous que demain, 3 juillet, comme chaque 3 juillet, ce sera la journée mondiale sans sac plastique jetable. Joe, bon courage, bonne journée à Cotonou. On remercie évidemment Jean-Luc Aplogan d'avoir été avec nous ce matin, correspondant de RFI au Bénin. Bonjour Armand.
Oui, bonjour, Juan.
Vous nous appelez d'Abidjan, c'est bien ça?
C'est bien cela,
en
oui.
Côte d'Ivoire, nous vous écoutons.
D'accord, Juan, j'ai une question, j'ai un sujet. Après plus de 5 jours bloqués en mer, le bateau de l'ONG allemande Lifeline s'est amarré au port de la Valette à Malte, où il a été, où il a débarqué plus de 230 migrants, avec l'accord, bien sûr, du premier ministre maltais, Joseph Muscat. Il faut rappeler au passage qu'aucun des pays du Conseil européen ne voulait recevoir ce bateau. Alors ma question est donc la suivante. Comment expliquer l'accord du Premier ministre maltais et quelle garantie l'a-t-il obtenu?
Ouais, c'est une excellente question, d'autant qu'il y a 3 semaines, rappelez-vous Armand, Malte avait refusé d'accueillir l'Aquarius, un autre bateau humanitaire avec à son bord également des migrants. Bonjour François Jemaine.
Bonjour.
Chercheur spécialiste des flux migratoires à l'Université de Liège en Belgique et à Sciences Po. Qu'est-ce qui a pesé dans la balance? Comment expliquer que Malte ait finalement accepté d'accueillir les 230 migrants du navire allemand Lifeline?
Ben, il faut d'abord savoir que Malte avait auparavant refusé, il y a quelques semaines, d'accueillir l'Aquarius, ce qui avait passé Malte sous le feu de nombreuses critiques. Et donc, Malte était sous pression supplémentaire pour cette fois-ci accueillir ce bateau. Il faut rappeler qu'il y avait moins de migrants, environ 3 fois moins de migrants sur ce bateau que sur le bateau de l'Aquarius. Et puis, il y avait, je dirais, la perspective du Conseil européen de jeudi et vendredi. Il est certain que Malte est un petit pays dans l'Union européenne. Et donc, je n'ai aucun doute qu'on ait exercé des pressions sur Malte pour qu'il accueille ce bateau pour ne pas créer une tension supplémentaire, une difficulté supplémentaire par rapport au Conseil européen qui avait lieu jeudi et vendredi et qui portait sur la question des migrations. Mmh. Et s'il y avait eu, à ce moment-là, un bateau avec des migrants en danger à bord qui naviguait encore en Méditerranée, il est certain que ça aurait ajouté une dramaturgie supplémentaire à l'accord et ça aurait considérablement compliqué les discussions. Et donc, très clairement, on s'est arrangé pour que la question du bateau du Lifeline soit oui. solutionné avant le début du Conseil européen.
Et la grande différence, François Jemaine, avec l'affaire de l'Aquarius, c'est que avec ce navire, le Lifeline, plusieurs pays européens s'étaient dit prêts à accueillir certains des migrants. C'est-à-dire que Malte savait qu'en accueillant les migrants, elle n'aurait pas ensuite à supporter les 200 passagers de ce navire.
Tout à fait, effectivement. Autant au moment de l'Aquarius, c'est après coup que la France s'était portée candidate pour accueillir des migrants de l'Aquarius. Ici, le fait que le bateau accoste à Malte fait partie, je dirais, d'une solution négociée au niveau européen où 6 ou 7 pays s'étaient déjà portés candidats pour accueillir des migrants. Et donc, Malte savait qu'elle allait fournir l'infrastructure portuaire, mais pas forcément l'infrastructure administrative derrière.
Ouais. Armand, vous avez une autre question?
Oui, oui, Juan. Alors, puisque c'est les pays du Conseil européen vont accueillir plus tard ces migrants, selon quels critères ces migrants seront-ils répartis?
Alors, ils seront accueillis dans 8 pays européens hein, uniquement, hein, pas tout le Conseil européen. François Gémen, ils vont devoir remplir un certain nombre de critères, ces migrants qui aspirent à s'installer dans un des 8 pays européens en question.
Alors, dans chacun des 8 pays, ils vont devoir introduire une demande d'asile, s'ils le souhaitent, bien entendu, et chaque pays examinera la recevabilité de cette demande d'asile, donc examinera s'ils sont dans les critères de la Convention de Genève pour obtenir le statut de réfugié. S'ils obtiennent le statut de réfugié, ils pourront obtenir un titre de réfugié et rester dans le pays. S'ils ne l'obtiennent pas, à ce moment-là, ils seront priés de rentrer chez eux et ce sera à la charge du pays qui a examiné le dossier de soit les renvoyer chez eux, soit de les accompagner.
Oui. Et probablement que des mesures de rapatriement sont déjà en cours. En tout cas, certains des pays d'accueil ont posé des conditions. J'ai le souvenir de ce message posté par le secrétaire d'État à l'asile et à l'immigration et à la migration en Belgique, qui dit « Nous aidons Malte, mais il doit s'agir d'une opération unique et nous n'accepterons maximum que 15 personnes. »
Tout à fait. Donc chaque pays a posé des quotas, chaque pays a posé des conditions, et puis, dès le départ, chaque pays a des critères très différents pour l'octroi du droit d'asile. Et donc, on n'a pas du tout en Europe un régime d'asile harmonisé, mais on a 28 régimes d'asile qui sont très très différents les uns des autres. Et donc, effectivement, la situation des demandeurs d'asile sera très différente selon le pays dans lequel ils sont envoyés, et ils n'auront bien entendu guère le choix du pays où ils iront.
Ouais, Armand, a-t-on répondu à vos questions?
Oui, c'est parfait, Juan.
C'est parfait. François Gémen, il nous reste une petite minute trente. Vous qui êtes spécialiste des flux migratoires et chercheur à l'Université de Liège, qu'avez-vous pensé de cet accord, ou plutôt de ce compromis trouvé vendredi, après une nuit de tractations, les différents États membres de l'Union européenne qui parviennent à trouver, on va dire, un petit consensus autour de la question migratoire? Qu'en pensez-vous? C'est suffisant? C'est insuffisant?
C'est très insuffisant et c'est une nouvelle fuite en avant, faute d'un véritable accord politique sur le fond. Et donc ce qu'il s'agissait, c'était de sauver les meubles et de sauver la face en quelque sorte, parce que le projet européen lui-même était menacé. Mais ce que l'on a décidé, c'est au fond d'essayer d'invisibiliser le problème et de l'externaliser à nouveau. Et donc de créer des sortes de plateformes de débarquement qui ne sont rien d'autre que les hotspots qu'on avait fait auparavant pour quelque part essayer de repousser et d'éloigner le problème. Tant que les gouvernements européens ne voudront pas prendre cette question des migrations à bras-le-corps, je crains qu'on ne s'achemine vers de nouvelles crises à répétition.
Ouais, les plateformes régionales de débarquement, un concept encore bien flou. Merci beaucoup François Gémen d'avoir été avec nous. Bonne journée à Armand qui nous appelait d'Abidjan. On avait prévu des questions également sur cette décision de la Cour suprême américaine qui valide le décret migratoire très controversé de Donald Trump. C'est une belle victoire effectivement pour le président américain, alors que ce décret, vous le savez, est dénoncé depuis plus d'un an par de nombreuses associations et de citoyens, tollé international également. Et bien, Donald Trump a eu raison au final. La Cour s'est prononcée en faveur donc de ce décret, avec effectivement des changements par rapport au tout premier décret. Delvy, qui avait des questions à nous poser sur cette question, ne vous inquiétez pas, vous serez avec nous demain matin. Et Françoise Coste, spécialiste de la politique intérieure, se fera un plaisir évidemment de vous répondre. À suivre dans moins d'une minute maintenant, le point complet sur l'actualité. On reviendra évidemment sur l'essentiel des informations sur le continent africain avec notamment l'attaque d'hier à Gao visant des militaires français. C'était en périphérie de la ville de Gao et ce sera l'occasion pour nous ensuite, après le journal, de parler du climat d'insécurité au Mali à un mois de l'élection présidentielle. Craignez-vous justement pour la sécurisation de la campagne électorale qui doit commencer dans tout juste une semaine? Craignez-vous également pour le jour du vote, le jour J? Irez-vous voter en toute quiétude, en toute sérénité, en toute sécurité? On en parle juste après le journal.
Retrouvez Appel sur l'actualité après le journal avec Orange Money, leader du transfert d'argent.